Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, durant la première partie de nos émissions, nous allons continuer notre série destinée à répondre aux questions de nos auditeurs sur la place du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Jean-Marc sera de retour parmi nous pour nous expliquer le rôle du Saint-Esprit dans le cœur de celui qui rencontre Dieu pour la première fois.
Bonjour Jean-Marc. Comme nous venons de l'annoncer, le sujet de notre discussion portera sur le rôle joué par le Saint-Esprit dans la vie de celui qui se repent pour placer sa foi en Christ. Mais par où voulez-vous commencer?
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Il est toujours bon de commencer en puisant ses réflexions dans la Bible. Alors, en ce qui concerne la place de l'Esprit dans la vie de celui qui rencontre Dieu pour la première fois, la Bible parle d'une nouvelle naissance. Écoutons à ce sujet les propos de Jésus lors de sa conversation avec un homme religieux nommé Nicodème.
« Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. »
Nous venons d'écouter la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 5 à 8.
Qu'est-ce donc la nouvelle naissance et quel rôle l'Esprit de Dieu joue-t-il?
Le jour où notre mère nous a donné le jour, une nouvelle vie a commencé pour nous ici-bas. Or, selon la Bible, personne ne peut connaître Dieu sans passer par une nouvelle naissance qui est le résultat de l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs.
Comment se fait-il que personne ne puisse vivre éternellement avec le Seigneur Jésus à moins de passer par cette nouvelle naissance?
Cela est dû à notre péché. Sans exception, nous sommes tous pécheurs et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a privés de toute vie spirituelle, autrement dit de toute communion et de toute intimité avec lui. Nous pouvons cependant vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Dieu est bon et miséricordieux, et grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, il a résolu ce problème du péché, car il est dorénavant possible de recevoir le pardon de Dieu et de le connaître. Cependant, pour qu'une personne puisse jouir de ce privilège, ce merveilleux bonheur, il faut que l'Esprit de Dieu agisse en elle et fasse naître en elle cette nouvelle vie qui lui permettra de vivre spirituellement.
Parlez-nous davantage de la manière dont l'Esprit effectue ce grand changement dans nos cœurs.
Pour mieux comprendre cela, il serait bon d'écouter un deuxième texte biblique trouvé aussi dans l'Évangile de Jean, mais cette fois-ci au chapitre 16, versets 8 à 13.
« Et quand l'Esprit sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. »
À cause de notre état naturellement pécheur, il nous est difficile de comprendre ou d'accepter que nous sommes souillés par le péché, que Dieu est juste et que nos fautes méritent un jugement. Nous pouvons ignorer ces choses ou choisir de ne pas les prendre au sérieux. C'est comme si alors nous étions sourds ou aveugles aux vérités spirituelles. C'est alors que l'esprit de vérité intervient. Il agit en nous pour justement nous convaincre concernant la vérité. Il nous aide à saisir et à comprendre toutes les vérités divines qui auparavant nous échappaient. Il nous persuade que notre problème est celui du péché. Il nous convainc que, oui, nous sommes coupables devant Dieu, que nous méritons son châtiment et que si nous voulons y échapper, nous avons besoin d'un sauveur. Ensuite, l'Esprit de vérité nous révèle que l'Éternel nous a envoyé un sauveur, Jésus-Christ, et il nous conduit à mettre notre foi en lui et à le laisser régner dans nos vies.
Mais nous pouvons penser que lorsque nous nous repentons pour mettre notre foi en Jésus, nous faisons ce choix de notre propre gré.
Nous pouvons l'affirmer, c'est notre choix. Toutefois, ce choix ne devient possible que si l'Esprit de Dieu a préparé nos cœurs en créant en nous ce désir de vie spirituelle et en nous convainquant sur la vérité. Il est ainsi vrai d'affirmer que ce choix dépend de l'action de l'Esprit dans nos vies, car sans lui, nous n'aurions jamais pu nous tourner vers Jésus. L'Esprit de Dieu nous révèle Jésus dans toute sa gloire et sa grâce, et nous ne pouvons nous empêcher de venir à lui pour nous abreuver de son salut. Permettez-moi pour conclure de revenir sur l'image de la nouvelle naissance. Nous pouvons affirmer qu'aucun être humain n'a fait le choix de venir dans ce monde. Ce choix en revient à nos parents qui nous ont conçus. Cependant, une fois né, le bébé puis l'enfant commence à jouir de la vie. Il découvre tant de choses, ses parents, l'endroit où il habite. Il apprend tant et tant. Il commence à marcher, à parler, à se servir de ses mains pour manger, pour jouer et dessiner. De la même manière, lorsque l'Esprit crée en nous cette nouvelle vie spirituelle, nous découvrons et apprenons tant de choses. Nous découvrons Dieu, notre Père, et notre grand frère, Jésus. Nous apprenons à les connaître. Nous découvrons la parole de Dieu dans toute sa richesse et sa clarté. Souvenons-nous aussi que la vie spirituelle est un apprentissage. Tout comme un bébé, nous ne connaissons pas tout de suite, mais nous devons croître, apprendre, faire des progrès vers une maturité spirituelle. Et en tout cela, l'Esprit de Dieu est avec nous pour nous conduire dans la vérité et faire fructifier cette vie qu'il a créée en nous. Mais ce sera le thème de notre prochaine discussion, à savoir le rôle de l'Esprit dans la sanctification ou la croissance spirituelle.
Nous remercions Jean-Marc pour ses enseignements clairs et instructifs.
L'inquiétude est une réaction courante générée par les difficultés de la vie. Mais qu'en dit Jésus à ce sujet? Nous allons nous découvrir dans cette série de méditations bibliques que nous continuons aujourd'hui. Tout d'abord, Hélène va lire dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 31 et 32.
Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » « Avec quoi nous habillerons-nous ? » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin.
À présent, Robert nous rejoint afin de nous faire part de ses réflexions sur ces versets. Bonjour Robert.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Le verset qui nous intéresse aujourd'hui est celui-ci. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin.
Jésus semble expliquer que l'attitude du chrétien devrait se distinguer de celle du païen, autrement dit du non-croyant.
Oui, or cette différence réside en ce que le chrétien a l'Éternel pour Dieu et Père, tandis que le non-croyant ne le connaît pas.
Expliquez-nous pourquoi le fait d'avoir l'Éternel pour Père apaise notre cœur.
je voudrais apporter au moins deux raisons. D'abord, le païen, plongé dans ses inquiétudes et ses préoccupations, sera tenté d'avoir recours à des pratiques ou à des solutions qui risquent d'aggraver sa situation et de lui créer encore plus d'angoisse. Certains, par exemple, auront recours à la magie, aux esprits ou aux pratiques superstitieuses. Se tourner vers ce monde-là est dangereux. Des retombées et des conséquences dramatiques s'en suivront. D'autres chercheront à soulager leurs inquiétudes en ayant recours à l'alcool ou à des drogues. Encore une fois, ces substances sont dangereuses et porteuses de malheur. Enfin, d'autres, à force de s'inquiéter sur leur sort, peuvent user de méthodes immorales dans l'espoir de résoudre leurs problèmes, ce qui, une fois de plus, peut les entraîner dans le cercle vicieux du mal. Par contre, le chrétien, au lieu de se tourner vers ces choses, fait appel à Dieu, son Père. Il se tourne vers lui avec l'assurance que Dieu connaît les moindres détails de sa vie. Il vit avec la conviction que le Seigneur l'écoute et s'intéresse à lui. Le chrétien a la foi que Dieu son Père est tout à fait capable d'intervenir dans sa situation et qu'il le fera selon sa volonté et en son temps.
Nous avons donc compris une raison pour laquelle le chrétien devrait moins s'inquiéter, mais vous vouliez en évoquer une deuxième, je pense.
Oui. J'ai beaucoup apprécié un thème que vous avez abordé il y a quelque temps, dont le sujet portait sur l'illustration biblique du trésor. Il est vrai que l'Éternel, notre Père Céleste, représente pour le chrétien un trésor, une source de bonheur, de paix et de bien-être. Or, si l'Éternel est pour nous ce trésor inestimable, nous serons moins préoccupés et moins inquiets face aux incertitudes de la vie, aussi bien que par le manque de possessions matérielles. Par contre, beaucoup de non-croyants, motivés par la réussite matérielle ou mondaine, attirés par le gain des richesses, la soif de posséder, le désir de jouir du pouvoir ou de devenir célèbre, se tournent vers le monde et ce qu'il peut apporter. Cependant, la course après ces trésors est vaine et peut devenir source d'inquiétude et d'angoisse. Le chrétien, quant à lui, sait que sa joie réside en l'Éternel. Aussi, il aspire avant tout après les richesses spirituelles. Son attitude envers les nécessités matérielles est plus sereine, car il apprend à se contenter de ce que l'Éternel lui accorde. Ses ambitions et ses aspirations sont mesurées, harmonisées par les perspectives divines et éternelles. Il sait qu'il possède un Père plein d'amour pour lui et qui de surcroît veille sur lui. Pour toutes ces raisons, le chrétien sait qu'il n'a pas à s'inquiéter, mais qu'il peut en tout temps décharger ses soucis sur le Seigneur.
Merci Robert pour votre participation aujourd'hui.
Nous continuerons nos deux séries la prochaine fois. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.